Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Renaud, j'espère que tu vas bien. Je suis en route là pour le bol à la Gaîté Lyrique. Je suis là, je pense, allez, dans 10 minutes. Franchement, je suis trop content qu'on fasse l'épisode 2 là sur la scène parisienne. Ça va être charmé. Puis pour me chauffer, là, j'écoute le dernier EP de Kiddy Smile, Paris Burning Volume 1. T'es déjà sur place, toi ?
Ouais, Christophe, je suis déjà sur place. Et mec, tu vas voir, c'est la folie totale. C'est la folie, les gens, ils sont trop chauds ici. Là, en ce moment, il y a Matthews qui est sur le podium avec une robe, mais gigantesque, c'est magnifique. Ah ouais, et juste avant, j'ai croisé Lazy Flow, le producteur Lazy Flow, et il m'a parlé de ses Vogue Beats. Je vais te faire écouter l'interview, c'est chamé. Et j'ai croisé aussi Vinnie Revlon, le danseur Vinnie Revlon, et il est chaud pour nous parler un peu plus tard dans l'après-midi. Et je pense que lui, il va tout nous raconter, tu vois, l'histoire de cette scène à Paris. Il va nous parler de vraiment des house, de ce qui se passe à l'intérieur des house, et il va nous parler évidemment de la danse. Et je pense que ça va être trop bien. Donc dépêche-toi, moi je prends deux cocktails, je t'attends en bas et on va trop kiffer, mon gars. À tout de suite.
Faya, épisode 15, le ballroom. I want sweets all the time. If you have something, gonna be mine. I want sweets all the time. If you have something, gonna be mine. Partie 2, voice notes from Paris. I can work and I can sleep. All I think is something sweet. I want sweets all the time.
Can't work cause I wanna quit some. Hello Renaud.
Hello Christophe, tu vas bien?
Ça va et toi?
Bah écoute, c'est trop chaud là-haut, les gens sont trop chauds, tu vas trop kiffer, j'ai trop hâte que tu vois ça enfin quoi.
Ah putain, mais moi aussi j'ai tellement hâte, puis en plus, franchement, le projet de Kiddy là que j'écoutais dans le métro, mais il tue, c'est charmé.
Ouais, il t'a mis dans l'ambiance à mon
avis. Ah bah direct il m'a chauffé.
Mais tu sais que c'est la figure de proue du ballroom en fait, c'est le mec à connaître. D'ailleurs même Macron en 2018, il l'a invité à la fête de la musique. La même année, on l'a vu dans le film de Gaspard Noé, comment ça s'appelle, Climax. Voilà, c'est vraiment la figure du ballroom, donc je pense même qu'il sera là, tu vois. Et bon, t'es chaud, on monte?
Eh bah, trop bien, on y va, vas-y. Allez, let's go, je te suis.
Allez, let's go.
Wow, ah ouais, ok, ah ouais.
Putain, c'est ouf, hein, t'as vu tout le monde qu'il y a là? Non, première impression.
Ah bah, première impression, c'est hyper impressionnant, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ouf, il y a trop de monde, il y a une ambiance de dingue. Il se passe quoi là en fait? Il se passe quoi? Alors, vas-y, raconte-moi.
Alors, vas-y, je vais te dire un peu ce qui se passe. Bon, déjà, devant nous, tu vois, t'as le podium, c'est là que tout va se passer. C'est là que tu vois, il y a des vogueurs qui sont en train de voguer. À droite, au bout du podium, bah, t'as la table des juges, des jurés. Juste à côté, je sais pas si t'entends celui qu'on entend, c'est le MC qui parle au micro. Juste à côté de lui, t'as le DJ. Et tout autour du podium, bah, t'as le public, mais t'as surtout beaucoup de gens, en fait, des house, tu vois, qui sont venus soutenir les vogueurs qui sont sur scène. Et là, j'ai un petit quiz pour toi, pour voir si t'as bien suivi le premier épisode. Tu vois, là, il y a des vogueurs sur scène.
Ouais.
À ton avis, quel style de voguing ils font?
Attends, j'ai bien écouté le premier épisode. Je dirais que ça ressemble à du Vogue Femme, genre la version moderne du voguing, un truc comme ça.
C'est exactement ça, mais pour te dire un peu plus précisément, en fait on est dans la catégorie Vogue Femme réservée aux Butch Queen. Donc là, ça va être réservé aux hommes gays. Ok, donc là, t'as le commentateur qui commence le décompte. Et là, ils sont censés s'arrêter. Là, t'as le commentateur, il annonce les décisions du jury et qui reste parmi les deux vogueurs. là c'est parti pour une autre battle, tu vas voir. Je sais pas si t'entends, mais il y a les chants du public et en fait ils chantent, tu vois, les hymnes ou les noms des houses. Et ça tu vas l'avoir pendant tout le vol. Putain, mais c'est hyper impressionnant. Ah, attends, il y a Vinny Revlon qui vient de m'envoyer un message. Ah, il est dispo pour qu'on se retrouve tout de suite au studio, au premier, là. On y va ?
Eh ben, vas-y, on va l'enregistrer en studio.
Allez, let's go. Alors, Christophe, tes premières impressions ?
Bah franchement c'est hyper impressionnant, mais surtout moi le truc qui m'a le plus impressionné je pense c'est les interactions, tu vois, entre les vogueurs, le public, le jury, le MC. Et ça serait cool que Vinny justement il nous parle un peu de ça, je trouve.
Bah écoute, on va lui poser la question. Moi je pense que avant qu'on le rencontre, tu vois, on a 2-3 minutes, je vais te briefer, tu vois, parce qu'il faut que je t'explique qui c'est Vinny Revlon. Alors déjà, lui, il m'a raconté que toute sa vie, il a dansé, tu vois, il vient d'une famille d'artistes, de danseurs. Donc lui, avant de faire du voguing, il a fait du dancehall, il a fait de l'afro, il a fait du hip-hop même, tu vois. Et en fait, c'est grâce à une émission sur MTV en 2011 qu'il a découvert le voguing. Et d'ailleurs, cette émission, elle a eu un impact énorme, je pense, sur cette scène. J'ai envie de lui poser des questions là-dessus. Vinny, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est le premier vogueur à avoir obtenu le statut de legend en Europe. Legend, c'est une distinction que tu reçois quand tu es un vogueur et que tu as gagné plein de trophées et que ta communauté vraiment te respecte et que tu as au moins 10 ou 20 ans d'expérience. Et lui, il l'a eu en 2018 au bout juste de 6 ans d'expérience. Donc c'est pour dire que le gars, il est bon. Ensuite, c'est le father, le père de la House of Revlon en France et en Europe. Donc ça va être bien de le questionner sur ce sujet. Et puis tu sais, dans le premier épisode, je t'ai parlé de Legendary. Donc c'est une émission de télé par HBO, une chaîne télé américaine, où en fait c'est une sorte de concours de ballroom. Et cette année, dans la saison 2, il y avait la House of Revlon française qui était là. Et bien sûr, il y avait Vinny qui était là pour défendre les couleurs de sa house. Donc vraiment, c'est quelqu'un de connu mondialement, tu vois, dans le monde du ballroom. Et enfin, la dernière info, c'est que Vinny, il est artiste résident à la Gaîté Lyrique. Donc tu vois, il est chez lui ici, tu vois, c'est un peu le roi de la Gaîté Lyrique. C'est vraiment pas n'importe qui.
Eh ben, sacré CV, j'en attendais pas moins de toi. C'est parti.
Ok Vinny, moi je sais que tu m'as déjà dit que en fait toute la scène parisienne, elle avait un peu éclos après la diffusion d'une émission sur MTV sur le voguing en France, tu vois, vers 2011. Et moi ce que j'aimerais savoir, c'est après cette émission, comment vous êtes tous rencontrés et à quel endroit ? Comment ça s'est fait en fait les débuts du ballroom à Paris ?
Moi, comme je te dis, j'ai vu ça chez moi, mais entre-temps, il y a un pote à moi qui m'a emmené à La Défense. Et à La Défense, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un endroit où tous les danseurs se réunissaient, mettaient leur son et dansaient chacun de leur coin. Il y avait, voilà, il y a des hip-hoppers, il y avait des crumpers, etc., etc. Donc du coup, il m'a emmené à cet endroit pour la première fois et je le vois faire des mouvements de voguing. Et donc je me suis dit, ah, toi aussi, t'as regardé l'émission ? Et il m'a dit, ouais. Quelques jours après, il m'emmène à Gare de Lyon et me fait rencontrer d'autres personnes qui, eux aussi, ont regardé l'émission. Mais du coup, cette fois, c'était que les gens de la communauté qui étaient à Gare de Lyon, que de la communauté LGBT. Donc du coup, je me suis dit, OK, donc là, c'est notre spot un peu. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était à la gare. Il y avait un endroit qui... Enfin, il y avait un mur qui faisait un peu miroir. Et du coup, c'était notre espace. On arrivait, on mettait le son et on dansait là. Voilà.
Ok, donc ça c'était la première rencontre, on peut dire. Mais comment vous vous êtes organisé ? Comment ça s'est vraiment constitué ? Et c'était qui les pionniers, pionnières de ce mouvement à Paris ?
Moi et d'autres vogueurs, dont le groupe qui s'appelait Delicious à l'ancienne, maintenant qui sont un peu répartis un peu partout. Il y a des gens de la House of West, des gens de la House of Ebony, des gens de la House of La Durée. Nous, on était le corps, entre guillemets la matière, et la Sandra Ninja et Nicki Mizrahi, Gorgeous Gucci, était le savoir. elles, à l'époque, elles étaient déjà parties aux États-Unis. Donc, elles avaient déjà assisté à des balls, elles avaient déjà rencontré des vogueurs des États-Unis. Donc, elles ont pu voir, elles ont pu poser des questions, elles ont pu participer à des événements. Donc, elles avaient un pied ou deux pieds d'avance sur nous. Et donc, du coup, quand elles sont revenues en France et qu'elles ont constaté qu'il y avait des gens qui avaient cette petite dalle, bah, elles se sont dit, pourquoi pas leur apprendre le bon vocabulaire, tout simplement. Et voilà. Donc, elles ont apporté les connaissances, du moins les termes, elles ont un peu donné la direction, et nous, on était un peu la matière. Donc, du coup, avec ce combo, on a créé justement la scène parisienne. Dès 2012, en vérité, il y a eu des événements qui ont commencé à se faire, des petits. Le premier événement qui s'est fait, c'était en boîte. C'était la BBB de Fouad. Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'était au Folies Spigard. En fait, on s'est réorganisé. Enfin, certains ont pris l'initiative de lancer le premier événement. Si on regarde les vidéos aujourd'hui, on se dit ok, c'était vraiment les débutants, mais c'est ce qu'il faut pour justement donner ce qui est aujourd'hui. Donc ouais, ça, ils ont pris l'initiative, ils ont organisé le premier événement. La Sandra a organisé un gros bowl aussi à Paris. Il y avait aussi Frédéric Noziciel qui avait invité des Américains pour un projet au McVal. Puis a fini par organiser le premier vrai bowl à Paris, qui était le Labenji Bowl au Centre Pompidou, qui a donné naissance à vraiment plein d'autres bowls par la suite, parce que c'était vraiment le premier gros bowl qu'on a eu à Paris. D'ailleurs, que j'ai gagné au passage.
Ok, ok. Et comment ça s'est passé ensuite pour toi? Ça a été quoi la deuxième étape?
J'en ai marre de regarder les vidéos. Je me suis dit, j'ai fait le tour des Parisiens. Je me suis dit, ok, I'm gonna fight with the big dogs. Genre, il était temps d'affronter les grandes, en fait. Donc, je suis parti aux États-Unis en 2014. J'ai participé à un bowl à Washington, D.C. et j'ai gagné. Donc, c'était ma première fois. Du coup, tout de suite, les gens se sont dit, mais who is that? Oh, he's from Paris? Oh, il y a une scène à Paris? Oh, ok. Et donc là, un peu, les projecteurs se sont un peu braqués sur la France, Paris, du moins. Et j'ai fait des allers-retours. J'ai gagné, voilà, j'ai commencé à faire mon nom il a commencé à grossir un peu aux États-Unis parce que voilà, j'étais le Parisien dans ma catégorie qui venait d'arriver et puis qui avait un peu de l'attitude. Donc voilà un peu comment j'ai fait mon nom aux États-Unis. J'ai fait des allers-retours, j'ai participé à des bowls, puis après je suis revenu en France, j'ai organisé pas mal d'événements aussi et je continue d'organiser pas mal d'événements. Les Américains, au départ, ils se sont dit, ah, oh, waouh, that's cute. Il y a une scène à Paris, Paris is burning, wouhou. Mais plus le temps est passé, plus ils se sont dit, oh mon Dieu, en fait, la vraie scène, c'est ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement, dès qu'il y a un gros événement, tous les Américains, ils descendent ici, hein, notamment à la Gaîté Lyrique. Hein.
You're so show, right? Legendary. Vous avez vu le show? No shame. And we have someone from Legendary today. Where is the international?
La House of Revlon, à la base, c'est une house américaine. Alors, je sais qu'en France, vous êtes une vingtaine dans cette house. En Europe, il y a à peu près 200 personnes. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour créer un chapitre d'une house américaine en France. Comment ça s'est passé pour toi, en fait?
Qui s'est passé pour moi. Donc, Frédéric Noziciel, en 2012, il a ramené trois Américains, Dale Revlon, Corey Revlon et The Icon Marcus Revlon. Les trois, ils étaient de Baltimore, il les a ramenés pour un projet au McVal. Ils cherchaient un traducteur pour faciliter leur venue, tout ça. Et moi, je parlais bien anglais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, on était ensemble pendant une semaine et dès le premier jour, ils m'ont dit « Oh, you're gonna be a Revlon, tu vas être un Revlon et tout. » Et j'aurais dit « Non, il y a un bowl à la fin de la semaine, je vais participer au bowl et ensuite, vous allez voir si j'ai le potentiel pour être Revlon. » Mais pendant toute la semaine, on voguait, donc ils avaient vu un peu mon niveau. Enfin bref, donc du coup, à la fin du bowl, Marquis m'a dit « Welcome to the house, you're the first Revlon. » Et donc du coup, j'ai été le premier Européen à être Revlon. Du coup, le chapitre parisien a été ouvert. Puis, par la suite, ils m'ont donné un peu le pouvoir d'ouvrir d'autres chapitres. Donc, du coup, ils m'ont donné la position en tant que fader. Mais je ne suis pas juste un fader parisien, je suis un fader européen. Du coup, j'ai ouvert des chapitres comme l'Espagne, l'Italie. Voilà, en gros, tu sélectionnes des personnes que tu as rencontrées pour qu'ils, eux, soient la relève, en vérité, et à leur tour, créent un chapitre aussi important que Paris, par exemple.
Alors, dans le premier épisode sur le ballroom, j'ai parlé de ce que c'était une house, brièvement. J'ai notamment parlé de la première house, la House of La Beja, celle qui a été créée par Crystal et Lottie en 72. Mais vu que j'étais là en face de moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ce que c'est une house, de ce que ça représente. Et toi, je sais que t'es fadeur de la House of Revlon ici. Donc, est-ce que tu peux me parler de ce rôle? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un job à plein temps, quoi.
Une house, c'est une famille de choix. Une house dans la culture ballroom, dans la communauté LGBT, voilà, c'est une seconde famille. Pour certains, c'est une famille qu'ils auraient aimé avoir. Parce que quand on fait partie de la communauté LGBT et en étant une personne de couleur, des fois c'est compliqué. Du coup, d'avoir un repère, des gens avec qui parler, se confier, bah, ça aide. Moi, dans ma house, je suis le father de ma house. Du coup, je suis là pour épauler, écouter, conseiller. Je suis là aussi pour montrer l'exemple du mieux que je peux à mes kids, à mes frères et sœurs. Et voilà, j'ai des conversations avec mes kids qui n'ont pas avec leurs parents biologiques. Par exemple, certains kids se voient mal parler de sexualité avec leurs parents biologiques, surtout qu'ils sont soit gays ou soit lesbiennes. Donc, du coup, c'est compliqué. Et puis, avec moi, c'est plus simple. Je les pousse à continuer à aller à l'école. Je suis capricorne, donc je suis très motivé, je suis très ambitieux, et donc je les pousse à être aussi ambitieux, même plus que moi, dans la vie. Avant tout, c'est ça, et d'être en bonne santé, puisque je prêche un peu allez faire vos tests, prenez vos médicaments, si vous avez des médicaments, voilà, c'est bien de connaître son statut, et si vous avez quelque chose, c'est pas la mer à boire, vous allez toujours vous soigner, voilà, c'est important de parler de ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses qui se passent dans une house, mis à part le fait que j'entraîne aussi mes kids dans leurs catégories respectives pour me ramener des trophées, bien évidemment, mais ça va au-delà de ça. C'est sûr que si t'es bien sur le floor, sur la scène, c'est super, mais si t'es bien dans la vraie vie aussi, c'est mieux. J'ai beaucoup d'enfants et pas qu'à Paris. Donc ouais, non, c'est un travail à plein temps et je prends ça très au sérieux parce que j'ai plein de personnes sous mes ailes c'est à plein temps, en plus de ma vie tous les jours.
Est-ce que je peux me permettre de poser une petite question?
Bien sûr, Christophe.
Vini, je me demandais, j'assistais à mon premier bol et j'ai vu que c'est complètement la folie, aussi bien sur le runway que autour, et le public est vraiment en folie. Moi, je me demandais quelle est l'influence que ça a sur toi quand t'arrives en tant que vogueur sur la scène. Et puis, est-ce que la musique aussi joue un rôle important dans ce que tu vas faire sur scène?
Totalement. La musique joue un rôle majeur. Mais pas que, hein. Il y a aussi le MC, le maître de cérémonie, qui lui accompagne la musique et le performeur. Ça marche à trois. Et je dirais même ça marche à quatre, puisque le floor aussi, s'il glisse pas trop, s'il est pas trop dur, ça aide aussi. Donc tous ces éléments vont faire que ma performance change du tout au tout. Donc oui, dès que j'entends les crashs du son, dès que j'entends la basse, dès que j'entends la voix du commentateur, je me transforme. Le public aussi joue une grande partie dans la performance du vogueur. Si le public est dry, s'il est là, mais il clappe pas, il donne pas de love, il n'encourage pas, ça donne pas envie forcément de se dépasser parce que ils sont là. Même si tu es censé danser pour le jury, le public il est là, il existe. Donc c'est sûr qu'avec un public qui te donne de l'amour qui crie et qui clappe pour toi, tu fais des trucs que tu fais pas en practice. Clairement. Alors, très sincèrement, je ne chorégraphie rien. Le voguing, c'est à la base, c'est du freestyle, 100%. Bien sûr, tu vas t'entraîner en répète, dans les salles de danse avec ta house, tu vas affûter tes skills, mais c'est censé sortir comme ça vient, en fait. T'es pas censé savoir sur quel son tu vas danser. Le seul truc que tu dois savoir, c'est comment tu vas t'habiller. Moi, mon mindset, c'est quand j'arrive, je regarde à quoi ressemble le trophée et je me dis, ok, il va être bien dans ma collection que j'ai chez moi. Et donc, du coup, je me lance et j'écoute la musique et je me laisse aller. « on va dire chacun sa manière de voir comment il réagit pendant son battle. Moi, je me dis que I'm the best, je suis le meilleur. Donc, c'est son rôle de vouloir me mettre de l'ombre, en fait. Moi, j'ai pas à me mettre de l'ombre à l'autre, puisque je suis déjà meilleur et j'ai mon trophée qui m'attend. Donc, c'est mon état d'esprit dès que je rentre dans un événement, avant même que ma catégorie commence, en fait. Si je sais que je participe, même si je participe pas, je suis à faire la cam' de bête. Mais même, enfin, si je me dis que okay, je participe à ce bowl-là, dès que je mets les pieds dans la salle, j'ai gagné déjà. Donc, mon mindset, c'est « I can't wait to have this trophy in my house ». Voilà. Et ça se voit en fait dans comment je marche, ça se voit dans mes expressions de visage. Et des fois quand je vogue, je parle, donc tu vas m'entendre en fait. Yes, English or French, you can hear me.
Vinny, tu viens d'évoquer le maître de cérémonie. Toi, je sais que des fois tu fais maître de cérémonie ou host. Comment on devient en fait maître de cérémonie d'un bowl? Parce que j'ai l'impression que c'est très différent du rôle de vogueur. Comment t'as fait pour devenir maître de cérémonie toi?
Comment on devient host? Alors, il y a deux choses. Il y a host et il y a commentateur. Et il y a host et commentateur. Moi, je suis les deux. Alors, le host, c'est une personne qui va être au micro, qui va parler au public, qui va mettre un peu l'ambiance. Voilà, te mettre bien, tu vois, t'accueillir convenablement. Ensuite, il y a le commentateur. Le commentateur, c'est celui qui va chain pendant les battles, etc. Tu vois, qui va faire des brrrr, kakakakakakakaka, brrrr, pendant les battles, tout ça. C'est pas tout le monde qui est les deux, au passage. Parce que, en effet, c'est un art de savoir chant, c'est un art de créer quelque chose comme ça à la seconde. C'est pas facile, il faut s'entraîner, j'ai dû m'entraîner. Mais c'est aussi un art de faire en sorte que les gens dans la salle se sentent bien, de les accueillir, de les mettre à l'aise, de faire en sorte qu'ils participent aussi. Donc ouais, non, c'est super important. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regardé les plus grands. Jack, Miss Very Gorgeous Gucci, j'ai regardé Kevin, Jay-Z Prodigy, MC Debra, je les ai regardés, je les ai étudiés depuis mon salon, sur mon téléphone ou sur mon ordi. Et je me suis dit, mais comment ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Et j'aurais posé des questions quand je suis parti aux États-Unis. Hein, j'aurais demandé, hein, j'ai dit... Comment, qu'est-ce que c'est? Et puis, ils m'ont un peu expliqué que, voilà, c'est un peu une chanson en repeat. Tu dois changer de niveau. Tu dois essayer de faire en sorte que le danseur en face de toi puise un peu de ta voix. Tu dois être en symbiose avec le DJ aussi. Donc, voilà, c'est tout un art. Et je pense que je le fais pas mal, là. Voilà.
Ouais, je capte bien la différence entre le host et le commentateur, mais il y a un truc, moi, qui m'échappe un peu, c'est comment tu choisis les mots que tu vas dire quand il y a un vogueur qui est en train de danser, par exemple. Et en fait, est-ce que tu suis ses mouvements ou est-ce que c'est toi qui le guide?
Il y a plein de scénarios. Vu que quand t'es un MC, voilà, t'as des chants à toi qui sont dans ton lexique. T'as des hits. Par exemple, j'ai eu un bowl ici, même à la Gaîté Lyrique, où j'étais au micro et j'arrêtais pas de dire « Call the doctor, call the doctor ». Et puis c'est resté dans la tête de tout le monde. Ça, par exemple, c'est un hit, tu vois. Et c'est un truc que je peux refaire. Mais il y a aussi le cas échéant où je connais pas forcément ton nom, mais ton look qui me parle, je vois que t'es habillé en violet, je vais peut-être faire un chant sur comment t'es habillé. Ou un autre cas qui arrive souvent, je vois une embrouille sur les réseaux entre deux personnes et quand ils vont passer... je vais chant ce qui s'est passé sur Internet, tu vois. Donc, c'est du freestyle encore une fois, c'est sur le moment et c'est ce que la personne va m'inspirer, c'est comment le beat va m'inspirer aussi et ce que j'ai dans la tête à ce moment-là.
What you say? Yes, motherfucking gasoline. Yes, that's my motherfucking gasoline. That's my motherfucking gasoline. That's my motherfucking gasoline. Give me the light, bitch.
Ok, et quand t'arrives sur la piste, toi, pour voguer, pour danser, est-ce que tu sais déjà combien de temps tu vas danser? Qui décide de la durée d'une performance?
Alors, c'est le host qui, généralement, gère un peu le timing, mais tu le sens un peu dans les chants, parce que ça commence doucement, entre guillemets, et puis après, il y a un pic, et généralement, après le pic, il va dire « one, 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 two, 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 three, 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 and all that posts for me ». Et là, c'est la fin. Donc, au 1-1-1-1-1, tu sais que la fin approche, donc t'es obligé de sortir tes dernières armes, quoi. Donc non, tu sais pas automatiquement combien de temps du monde tu vas danser, mais through the battle ou de présélections, tu sais à peu près le timing entre guillemets. Tu connais, enfin tu l'entends du moins.
1001, 2002, 3003, and all that goes for me. Ouais, d'accord, mais en tant que host, si tu vois un danseur, tu vois, qui est genre méga chaud, tu vois, tu le sens on fire, est-ce que tu vas pas être tenté de le laisser un peu, ou en fait, par rapport à l'organisation du ball, tu dois vraiment respecter le timing pour pas que ça dure 3 ans?
Ça va dépendre de... Des fois, je me dis, you know what, save it for the battle. En gros, t'as pas besoin de faire plus tout de suite là. Attends les battles, parce que les présélections, tu vas les avoir. Parce que là, on parle du moment où ils arrivent pour leur présélection, tu vois, pour get the tens. Donc, il va arriver, il va être super chaud, et dès l'entrée, tu vas voir qu'il est super chaud. Il va arriver, il va faire quelque chose, puis un dip, et puis je vais tout de suite demander au jury, judge is your score. Tend across the board, of course, stay to the side. Ou des fois, il va être tellement chaud que tu vas sentir qu'il n'a pas envie de s'arrêter et tu vas le laisser monter, et puis après, tu vas l'arrêter. Donc en vérité, ça dépend. J'ai du profiling, en fait. C'est à l'instant T, c'est du direct. C'est pas des trucs que tu peux préparer. C'est pas des trucs que tu peux dire, OK, bon, lui, je vais le faire attendre ou lui, je vais le faire durer. Non, c'est du feeling. C'est que du feeling.
Ce qui est fou, c'est que c'est à la fois hyper codifié et hyper feeling au moment présent, quoi. Ouais.
Et même dans le freestyle, il y a de l'organisation. En fait, il y a toujours un encadrement, même si c'est très, très free. Tu vois, par exemple, là, je vais le laisser danser, mais je ne vais pas le laisser danser 2 minutes, tu vois. Je vais l'arrêter à un moment, tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, il y a un ball, comme tu dis, qui continue. Il y a d'autres personnes qui veulent passer leur présélection. Et that's not about her. But quand c'est le moment de briller, et des fois, il faut les laisser. C'est important.
Tellement intéressant, Vinny. Bon, ça y est, on est retour dans le bol. Hein. Il se passe quoi, là?
Alors, attends, laisse-moi voir le tableau. Ok, donc là, on assiste à une battle de Vogue Femme, mais cette fois-ci, c'est les Female Figures. Alors ça regroupe les femmes trans, les femmes cisgenres et les drag queens. Alors... Là, ok, attends, donc je connais ces deux vogueuses. Donc là, la fille avec les bottes vertes, c'est Zania Revlon. Et elle fait partie justement de la house de Vinny. Et en face, non, attends, mais c'est Brooklyn. Alors elle faisait partie de Legendary, elle était dans la saison 2 de Legendary. Elle fait partie de la house Juicy Couture. Elle est trop forte. Tu vois, c'est celle avec la doudoune verte là. Elle, je la kiffe trop.
Wow, mais c'est hyper vénère en fait, la danse là, elles font des spins, elles se frôlent, mais vraiment, mais limite à se mettre des coups de pied comme dans la capoeira un peu, sauf qu'elles sont en talons aiguilles. Et puis, wow, mais Brooklyn, elle a poussé l'autre là, mais c'est, en fait c'est un fight. Oh. Ah putain, c'est ouf comment le public, j'adore quand le public marque comme ça les moments tous ensemble où les meufs dip.
Ouais, il y a une vraie communion, je trouve, tu vois, entre le public et les danseurs, quoi. Ils réagissent au même moment.
Et puis là, le host, il dit « All that posts for me », mais elle continue à voguer, en fait, donc...
Ouais, alors ça, c'est quand les vogueurs, ils sont vraiment chauds, tu sais, Vinny nous l'a raconté, des fois, tu peux plus les contrôler, quoi. Ah ouais, donc là, dans la battle, c'est Zania qui reste, en fait. Ah mais attends, j'y pense. En fait, pour que t'en saches plus sur le ballroom à Paris, faut que je te fasse écouter l'interview que j'ai faite avec les Iflo un peu plus tôt. Si tu veux, on se pose dans le bar et on écoute ça.
Vas-y, j'ai mon casque, tu me fais écouter un peu ce qui t'a raconté, le Lazy Flow. Ladies and gentlemen, this is the Lazy Flow and BN's Productions. Paris in the building, yeah. Paris in the eye. Shoes on the mind, yeah. Paris in the building, Paris in the house. Why is the floor on the beat, pump it, pump it, pump it.
Alors déjà, avant que je te fasse écouter Pareil, faut que je te briefe un peu. Parce que faut que tu saches qui est Lazy Flow. Lazy Flow, c'est un producteur et un DJ qui est parisien. Et en fait, Lazy Flow, il est connu dans le milieu du ballroom parce qu'il fait plein d'édits, de remix, dans lesquels il mélange les codes des vogue beats, tu vois, du ballroom, avec des genres musicaux qui n'ont rien à voir. Et par exemple, tu vois, il va remixer Pookie d'Aya Nakamura, mais version vogue beats. Et en fait, c'est à peu près le seul producteur français à faire ça. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres, tu vois. Et à la base, ce qui est intéressant, c'est qu'il est batteur et il a aussi commencé le DJing par le scratch. En fait, à la base, c'est un mec qui scratchait avant des concerts de rap et qui mixait dans des skateparks, tu vois, pour des compétitions de skate. Il a évolué ensuite dans la musique électronique. Il faisait partie du label Young Guns avec des gars comme Bambounou, French Fries, Manaré. Ça a bien marché pour lui, tu vois. Et il a découvert le monde du ballroom grâce à Kid Ismail, avec qui il a collaboré il y a 10-12 ans. Et en fait, il est allé super loin dans cette expérience du ballroom. Maintenant, il fait partie d'une house, la House of La Durée. C'est la première house française qui est parrainée par Matthews, celui qui était sur scène quand tu étais en train d'arriver. Et donc, Lazy Flow, maintenant, ça lui arrive souvent de mixer dans des balls. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de super intéressant à écouter. T'es chaud ?
Ah bah vas-y, fais-moi écouter. Qu'est-ce qu'il t'a raconté alors, Lazy Flow ?
Alors, tu vas voir, déjà, j'ai commencé par lui demander comment vraiment en détail il a découvert le ballroom et quel a été son parcours dans cette scène.
Au départ, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était déjà la bass music, en fait, qui était une musique club et souvent alliée à la danse. Sauf qu'à cette époque, moi, je comprenais rien à la danse et je m'y intéressais pas spécialement. C'était juste les basses, moi, qui me fascinaient et les sonorités. C'était plus sur un point de vue technique, on va dire. Et en fait, je travaillais déjà avec Kid Ismail, en fait, à cette époque. Donc, c'était il y a 10-12 ans. Et j'étais un des premiers producteurs, en fait, de Kid Ismail et DJ. J'ai aussi mixé pour lui sur quelques événements, et du coup, on était restés en contact, parce que je faisais aussi ingénieur du son à côté, donc j'enregistrais aussi des morceaux pour lui, dont certains morceaux qu'il a sortis sur Defected, sur son premier EP. Parfois, je lui prêtais mon studio pour qu'il fasse des tournages. Enfin, il était contacté par des médias comme Trax, sur Arte, Canal+, etc. Et une fois, il est venu pour que j'enregistre des MC de la Ballroom. Du coup, j'ai découvert Matthews ce jour-là, entre autres. Et j'ai été invité ensuite à la projection de ce documentaire, parce que c'était pour un documentaire qui s'appelait Paris is Voguing. Et je suis allé voir ce documentaire. Et j'ai été scotché, en fait, par cette scène à Paris, parce que je connaissais la ballroom aux États-Unis. Je connaissais un peu la musique, mais quand je regardais les vidéos, je comprenais rien, comme tout le monde qui rentre là-dedans et qui voit ça pour la première fois. C'est extrêmement codifié et j'étais un petit peu perdu. Mais du coup, avec ce documentaire, j'ai compris plein de choses. J'ai compris le contexte social, la danse, la musique, etc. Et du coup, j'aurais proposé mon aide, en fait, pour trouver des lieux, parce que j'organisais moi-même des soirées, je mixais déjà dans des lieux, et j'avais l'occasion de faire une release party pour un autre disque qui n'avait rien à voir musicalement, dont la chanteuse était très pote avec Kid Ismail, et je lui dis, tiens, est-ce que tu veux pas faire un bowl au début de la soirée, je mixe pour vous gratos, et c'était au bain-douche. Du coup, ça s'est fait, j'ai rencontré Matthews et Vinnie, Gisèle aussi, qui m'ont expliqué comment mixer, parce qu'il y a une certaine manière de mixer dans les bowls. Et du coup, j'ai fait ce bowl au bain-douche, et apparemment, ça a plu. Et depuis, Vinnie m'avait appelé pour mixer à son prochain bowl, à son anniversaire. Et depuis, j'ai pas arrêté de faire des bowls. Et en parallèle, j'ai fait des productions avec l'aide de Matthews et directement en contact, en fait, avec des danseurs pour vraiment décortiquer les rythmiques. Parce qu'au départ, je comprenais pas ce que je faisais j'essayais de faire des choses en pensant que c'était adapté, mais en fait non. Et c'est à force de mixer dans les bowls et de parler avec des danseurs que j'ai compris les codes, en fait. On casse.
Casse. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais dans le premier épisode de cette mini-série sur le ballroom, le producteur d'Ivoli Svere, il m'avait parlé du fait que dans un ball, il y a un type de musique pour chaque catégorie. Et du coup, c'est très très codifié. Et donc, j'ai demandé à Lizzy Flo comment lui, il se prépare pour mixer dans un ball.
Alors, c'est énormément de travail, parce que des fois, il y a des balls où il peut y avoir une trentaine de catégories. Et du coup, ouais, ça peut me prendre peut-être parfois 2 heures pour préparer un ball au maximum. Et en plus, parfois, je m'amuse, suivant les thèmes, à faire des productions exclusives pour des catégories. Par exemple, il y avait un des premiers balls que Vinny a fait, il y avait une catégorie sur le dessin animé Kim Possible. Et j'avais fait une édite en samplant le dessin animé Kim Possible. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est de pas spoiler et de rien dire, rien, pas mettre d'extrait sur les réseaux sociaux et de lâcher le son lorsque la catégorie est ouverte et de voir toutes ces têtes se retourner, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, surtout, que ça leur fasse plaisir et que par la suite, après, je les mets sur Internet et puis ils les réutilisent pour faire des chorégraphies dessus. Mais jusqu'en Corée, encore aujourd'hui, par exemple, cette édite-là, c'est une des édites qui a le plus marché et qui a le plus demandé dans les bowls. Donc c'est assez marrant.
Donc le bowl, ça peut être un bon endroit pour tester des choses.
Oui, mais il faut, c'est assez risqué, quoi, parce qu'il ne faut vraiment pas déstabiliser les danseurs. Il faut, voilà, faut bien connaître les codes. C'est arrivé que assez régulièrement, surtout au début, on me dise change de track, même sur des tracks d'autres artistes que je jouais, mais parce que je saisissais peut-être pas l'ambiance ou l'énergie à ce moment-là ou la danse ou voilà, et du coup petit à petit j'ajuste mes playlists et mes morceaux.
Dans sa première réponse, Lizzy Flo, il m'a dit qu'il avait dû apprendre à considérer la danse pour créer des vogue beats. Mais du coup, j'ai voulu savoir quel avait été son processus, tu vois, comment il a fait pour se familiariser avec la danse. Est-ce qu'il a appris à danser? Est-ce qu'il a dû parler avec des danseurs? Il m'a tout raconté. Écoute ça.
Moi, j'avais, comme je te disais au début, j'avais un peu du mal à faire les beats de moi-même en sortant de nulle part sans être danseur et voilà. Et du coup, très vite, j'ai proposé, et on m'a proposé, surtout Matthews, qui avait plein d'idées de morceaux qu'il voulait tourner en edit ballroom, de prendre, par exemple, je sais pas, il avait l'idée du morceau On casse, on arrive comme d'hab, un son afro-trap français, et de le tourner en ballroom, donc rajouter des crashs, des caisses claires, machin et tout. Et c'est un petit peu lui qui m'a aidé à confirmer si je faisais les choses bien, et du coup d'avoir la validation d'un danseur, je comprends un peu mieux si je vais dans la bonne direction en fait. Puis parfois chaque fois que je fais un beat, de toute façon je me mets des danseurs en tête, ou je peux regarder des vidéos, mais maintenant j'ai tellement l'habitude que voilà, je m'imagine un danseur. Moi-même j'essayais de danser un petit peu, je suis allé à quelques trainings pour mieux comprendre aussi notamment même des choses comme le tempo, etc. Parce que c'est extrêmement physique comme danse. C'est un peu comme si tu faisais 100 squats à la minute. Mais du coup, il y a plein de petites choses à prendre en compte. C'est mieux de connaître la danse, ouais. On casse.
Alors forcément, j'ai voulu lui parler de la série d'EP Tropical Vogue. C'était une série dans laquelle, entre 2018 et 2020, il mélangeait, comme je te disais, les codes du Vogue Beat, mais avec d'autres genres musicaux très différents. Donc j'ai voulu lui demander comment il avait eu l'idée de cette démarche, en fait.
Bah déjà moi j'adorais tous ces types de sons, enfin de global music en général, que ce soit venant d'Afrique, du Brésil essentiellement. Et en fait j'ai expérimenté avec Matthews ce genre de mélange au départ. Et puis en comprenant les rythmiques, je me suis rendu compte qu'en fait rythmiquement, on pouvait danser sur de l'afro ou du latin. Il y avait une espèce de rebond que je retrouvais dans la caisse claire des sons de ballroom de New York par exemple. Donc en fait j'ai adapté ça en mode ballroomer. Ça marche pas avec tout. Au début je faisais juste des edits, je prenais des sons déjà existants et je calais juste une crash dessus ou des sonorités ou une caisse claire. Et petit à petit j'ai un peu plus travaillé la chose, j'ai fait des originaux. Et en l'occurrence le projet Tropical Vogue, c'était l'idée de prendre plein de types de sons qui pouvaient potentiellement se marier avec du ballroom et en faire une espèce de série expérimentale de mélange. Donc t'as The Afro Trap Ha, The Shabby Ha, By The Funk Ha, et enfin voilà, il y a toute une série. J'en ai fait, je crois que j'en ai fait 9 jusqu'ici sur cette série de EP-là. Voilà, c'était purement expérimental et pour me poser un peu un truc, voilà, j'ai fait des mélanges qui vont bien ensemble. Et voilà, ça ressemble à ça.
Yalla.
Moi, il y a un truc qui m'intéresse, tu vois, avec les créations de Lazy Flow, c'est de savoir quelle est la réaction des vogueurs ici. Parce que je me dis que quand ils utilisent de l'afro-trap, du coupé-décalé ivoirien, du chata martiniquais ou même du shabi algérien, ça doit quand même faire écho à des références culturelles que les vogueurs parisiens ont et que les vogueurs américains n'ont pas forcément. Donc j'ai voulu qu'ils me parlent de ça, tu vois.
C'est exactement ça, parce que en comparaison avec les États-Unis qui ont une culture, je parle de la ballroom, qui ont une culture plus disco, house, peut-être plus liée avec la musique latine que la France, en fait, où il y a plein de diasporas qui viennent d'Afrique, des Antilles, par exemple. Et du coup, ça a tout de suite résonné chez eux, parce qu'en fait, il y en a plein de danseurs ici qui n'ont pas du tout la culture disco ou house, par exemple, dans la ballroom. C'est limite, ils écoutent plus du hip-hop, du dancehall ou de l'afro, en fait. Ce qui n'a rien à voir avec l'histoire de la culture américaine, en fait. Donc du coup, ça a tout de suite fait écho quand j'ai fait ça. Bah, The Afro Trap A, par exemple, c'est un son qu'on me demande tout le temps pour des LSS maintenant, ce qui est vraiment un honneur pour un DJ producteur. Parce que c'est voilà, un son qui est là pour hype tout le monde, notamment voilà, les legends, les stars, etc. de la ballroom. Et un des sons voilà, où j'ai vu le plus de chorégraphies, il y a même des chanteurs de ballroom qui m'ont demandé de chanter dessus, comme Anabi, qui ont fait des clips, etc. Donc c'est très gratifiant, je suis très content de voir. Et puis on se rend directement utile en voyant ça, donc c'est magnifique.
Alors Christophe, je vais parler de ton très bon podcast Le Sens de la Fête.
Bah c'est sympa ça, merci à toi, merci pour la promo.
Et je lui ai dit que tu avais rencontré Vincent et Fanny qui organisent les soirées La Créole à Paris. Et c'est des soirées, tu le sais très bien, où on peut voir des vogueurs sur scène et où il y a un vrai mélange de musique club, afro, caribéenne. Et Lazy Flow, il est DJ résident de ces soirées. Du coup, j'ai voulu savoir quel était le lien entre la scène ballroom et la scène de La Créole à Paris.
Déjà Vincent, donc, qui est un des personnes à la tête de La Créole, un des fondateurs avec Fanny Viguier. Donc, Vincent Frédéric Colombo fait partie de la scène ballroom Il est un petit peu moins investi ces derniers temps parce qu'il est, très pris. Mais il participait, il faisait des runways, il faisait la catégorie runway, par exemple, où il faisait lui-même ses habits et il défilait. Il me semble que lui faisait la catégorie All American Runway, qui est un petit peu plus masculine dans la façon de marcher. Et où il a gagné, d'ailleurs, un des derniers bowls pour lequel j'avais mixé pour Kiddy Smile, il avait gagné, il me semble, cette catégorie-là. Et du coup, voilà, donc il était déjà dans la ballroom, il connaissait plein de danseurs et il les a très naturellement conviés à la créole. Et je pense que naturellement, il m'a invité à mixer ensuite à la créole parce que je représentais un peu musicalement ce genre de mélange un peu hybride dans lequel ils se retrouvent tous en fait, entre ces diasporas afro-caraïbéennes et la ballroom et aussi la patte musique électronique, parce que voilà, j'ai aussi beaucoup été dans cette branche-là.
Franchement, merci de m'avoir emmené là, Renaud. C'était chambé ce bowl, c'était hyper impressionnant, c'était hyper beau, c'était passionnant. Vinnie Revlon et Lazy Flow sont passionnants. T'oublies pas que dans une semaine, tu me parles de la scène ballroom au Brésil. Hein. Faut qu'on fasse le troisième épisode de cette série.
Bah, bien sûr, hein, t'inquiète, j'ai pas oublié. Et en plus, tu le sais, je suis en contact avec des productrices, des danseuses, des DJ, et qui sont soit à Sao Paulo, soit à Rio, soit à Salvador de Bahia. Et elles vont tout nous raconter. Bon, allez, je file. C'était vraiment trop bien, on se capte rapidement. Bise.
Allez, bisous. Fire, fire,
fire, fire. Faya, une émission de Nick La Radio par Renaud Brizard. À la réal, c'est Malo Williams. À la prod, Christophe Payet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.